Chapitre 13. Passagers mystérieux, au pluriel. J'avais entendu dire que nous allions aux Indes, mais je n'en étais pas sûr. Je cherchais à me renseigner auprès des trois matelots européens qui étaient à bord. L'un d'eux, un Français, affirma que nous allions tout simplement en Espagne. L'autre, un Anglais, soutint que nous ne dépasserions point le cap de Bonne-Espérance. Quant au troisième, un Irlandais, il avoua qu'il ne savait rien. La curiosité qui me poussait à m'informer de notre itinéraire était assez ridicule, en somme, car le but du voyage serait toujours le même pour moi. Que nous allions aux Indes ou en Chine, cela importait peu. Le principal était que je m'éloignasse le plus possible de l'Angleterre, et le Sigoul semblait aussi pressé que moi de fuir la côte. Dès que nous eûmes dépassé les Needles, récif dangereux qui se trouve, comme on sait, à la pointe extrême de l'île de Wight, nous mîmes le cap au sud quart sud-ouest. Malheureusement, le vent, qui jusqu'alors avait été favorable, changea brusquement et nous fûmes obligés de louvoyer, ce qui retarda beaucoup notre marche. Néanmoins, le Sigoul tenait merveilleusement le pré et faisait avec le vent un angle de 4 quarts, soit 45 degrés. Il avait cependant un défaut, il gîtait beaucoup, et à certains moments, le pont offrait une déclivité telle que nous devions nous cramponner à la lisse et aux superstructures pour ne pas être envoyés par-dessus bord. Ce brick goélette, comme tous les bateaux de plaisance, était très fin de forme. Il y avait lieu de s'étonner que le capitaine eût choisi un tel bâtiment pour faire de longs voyages. D'ailleurs, tout était mystère sur le Sigoul. J'avais cru jusqu'alors que celui qui le commandait en était le propriétaire, mais j'appris bientôt par le matelot irlandais que nous avions deux passagers à bord, un homme et une femme. Il me semblait en effet étonnant que le capitaine voyageât pour son seul plaisir. La première journée que je passai sur le Sigoul fut des plus calmes. On ne m'employa qu'à des manœuvres insignifiantes, et j'eus la chance, lorsque la brise fraîchit et qu'il fallut carguer perroquets et cacatois, de ne pas faire partie de la bordée de service. À la nuit, le capitaine, je ne sais si j'ai dit qu'il s'appelait Ross, fit, selon la vieille coutume maritime à laquelle certains navigateurs sont restés fidèles, prendre un ris dans la voilure, et il ne resta plus sur le pont que le marin de quart, la bordée de tribord et l'homme de barre. Mes camarades et moi, après avoir pris notre repas, nous nous réfugiâmes dans le gaillard d'avant et installâmes nos hamacs. Cardiff, son éternelle pipe aux dents, assista à notre coucher, puis quand il vit que tout était en ordre, il se retira dans sa chambre. Dès qu'il eut disparu, quelqu'un ralluma la camoufle, la voilà prudemment avec l'étamine bleue d'un pavillon et une partie de l'équipage se mit à jouer aux cartes. Je remarquai que les plus acharnés parmi les joueurs étaient les nègres et les chinois. Ces gens ne se comprenaient pas entre eux, mais ils suppléaient aux paroles par une mimique étrange, coupée de temps à autre d'interjections rauques et traînantes. Je fus assez étonné de ne pas voir circuler d'argent, mais l'Irlandais, qui était mon voisin de hamac, m'apprit qu'ils jouaient sur parole et qu'ils régleraient leur compte à la fin de la traversée lorsqu'ils auraient touché leur solde. Il y eut à un certain moment une vive discussion qui se termina par un assaut de boxe entre un nègre et un chinois. Le nègre mit son adversaire knock-out et la partie recommença pendant que deux matelots relevaient le chinois qui était quelque peu meurtri, et le couchait dans son hamac. Mon voisin de lit, l'Irlandais, je me rappelle qu'il s'appelait Solway, bavard comme tous ses compatriotes, avait fait glisser sur leur tringle les garcettes de son hamac, et s'était approché de moi. « Sur quel bateau étiez-vous avant de venir ici ? » demanda-t-il. « Sur le Black Star, » répondis-je. Un long courrier? Oui. Moi, j'étais sur le Newcastle, un vieux bâtiment plein de rats qui repose maintenant par le fond dans le canal de Saint-Georges. C'est la première traversée que vous faites sur le Seagull? Oui, oh d'ailleurs, tout l'équipage est dans mon cas. Nous sommes tous nouveaux à bord. Pas possible. Quoi, vous ne le saviez pas? Non, je vous assure, mais à qui appartient le bateau sur lequel nous sommes? À personne, ou du moins, si, il appartient à un armateur anglais qu'il a loué aux deux passagers qui sont à bord. Ce sont eux qui ont engagé le capitaine Ross et l'ont chargé de recruter l'équipage. Ah! Et sait-on quels sont ces gens? On dit, bon, je ne pourrais rien affirmer, que c'est un lord qui voyage avec sa maîtresse. Je l'ai aperçu avant-hier quand il a embarqué. Bon, il a une drôle de tête. Et la femme? Elle était tellement emmitouflée qu'on ne lui voyait que les yeux et le bout du nez. Ils ont des domestiques avec eux? Non. Comment pas, même un groom? Je crois pas. Et depuis leur embarquement, ils n'ont point paru sur le pont? Non, non, ils ne bougent pas de leur appartement. Il n'y a que le capitaine et le steward qui les approchent. Bizarre. Oui, bizarre, comme vous dites. Moi, j'ai dans l'idée que ces particuliers-là ont fait quelques sales coups et qu'ils ont frété le Sigoule pour échapper à la police. Mais avant le départ, il y a eu une visite à bord. Ouais, j'y ai même assisté, mais le capitaine avait eu soin de cacher les deux passagers dans la cale avec tous leurs bagages. Ah, alors le capitaine est de mèche avec eux. Probable. Cette conversation fut interrompue par l'arrivée brusque de Cardiff. En apercevant le falot qui était toujours allumé, il poussa un hurlement de fauve, se précipita sur les joueurs, leur administra une volée de coups de poing, déchira les cartes, puis éteignit la lumière et disparut. Cardiff, on le voit, s'y entendait à maintenir l'ordre à bord. Quand il eut refermé la porte, les nègres et les Chinois regagnèrent à tâtons leur hamac, et jusqu'à la relève de minuit, le silence le plus complet régna dans la chambrée. Au matin, quand je parus sur le pont, le capitaine Ross m'appela. Venez dans ma cabine, j'ai à vous parler. Je le suivis en tremblant. Quelle nouvelle tuile, pensais-je, vais-je encore recevoir sur la tête? Dès que nous fûmes seuls, le capitaine me dit: Je vous ai observé hier pendant toute la journée. J'ai pu me convaincre que vous êtes marin comme moi je suis évêque. Vous vous tenez sur les barres comme un dromadaire sur une balançoire et vous savez même pas déborder la vergue de la hune et frapper les palans sur les galoubans. Je pensais que vous pouviez faire un gabier supplémentaire de basse voile, mais vous ne seriez même pas capable de larguer le dormant de l'écoute et d'amarrer le conducteur sur les cosses d'empointure lorsqu'elles sont larguées. Tout ce que me disait le capitaine était pour moi de l'hébreu, mais comme j'avais l'air de protester, il s'écria: Un gabier, vous, jamais de la vie! Mais cependant, je vous assure que à bord du Black Star. Quoi, que faisiez-vous à bord du Black Star? Vous briquiez la poulaine, hein? C'est tout ce que vous pouvez faire. Tenez, je vais vous prouver que vous êtes nul en navigation. Vous n'avez jamais mis les pieds sur un navire à voile. Je suppose que le hallebas du foc soit cassé. Par quoi le remplacerez-vous? Ah, vous restez là comme un cachalot qui a avalé une gaffe. Vous savez pas. Et quand un hunier se déchire, comment vous y prenez-vous pour le réparer sans le carguer? Vous voyez, vous demeurez bouche bée. Vous êtes gabier comme la tige de mes bottes, et vous m'avez monté le cou quand vous vous êtes présenté. Bon, je ne sais pas ce qui me retient de vous débarquer séance tenante. Le capitaine Ross, d'un coup de langue, changea sa chique de côté, puis après avoir juré tout ce qu'il savait et m'avoir prodigué un tas de noms qu'un horse guard n'eût pas entendu sans rougir, Il parut se calmer un peu. « C'est bien, dit-il, cela me prendra à engager un matelot sans lui faire faire un petit voyage dans les vergues. Vous avez promis 25 livres pour la traversée, je vous diminue de moitié. Et dorénavant, au lieu de grimper dans la mâture, vous resterez à la cuisine avec le maître Cook. Vous savez éplucher les oignons et les pommes de terre, je suppose. Allez, rompez, que je ne vous vois plus. Descendez trouver Zanzibar et dites-lui de ma part que comme vous étiez trop bête pour faire un gabier, je vous ai nommé laveur de vaisselle. » Je saluai et sortis, affectant d'être navré de ma disgrâce, mais très heureux au fond de ce changement de situation. J'étais maintenant certain de ne pas me rompre le cou en tombant des unes. Je m'engageai dans le petit escalier à pente roide qui conduisait à la cuisine, et 5 minutes après, je me présentais à M. Zanzibar, un nègre du plus beau noir dont la peau humide luisait comme celle d'un phoque sortant de l'onde. Lorsque j'entrais, Zanzibar était en train de moduler sur un énorme ocarina de métal blanc une mélodie tropicale. Tout en jouant, il remuait la tête, roulait de gros yeux blancs et de ses pieds nus frappait le sol en cadence. Dès qu'il me vit, il ôta l'ocarina de ses lèvres et demanda « Qui tu veux-tu, messier ?» À défaut de lettre d'introduction, je lui exposai de vive voix le but de ma visite. Il m'écouta en souriant, puis quand j'eus terminé « Eh ben, mi bi content, dit-il, oui, bi content de voir camarade. Triste ici. Tous deux nous rigolis, nous jouer au carina, puis danser. Qu'à toi tu t'appelles ?»« Colombo, répondis-je. » On se rappelle que c'était le nom que m'avait donné le capitaine. « Mi Zanzibar, mais pas vrai, mi pas Zanzibar, mi Batouaoula. » Nous nous serrâmes la main et Zanzibar, pour fêter ma bienvenue, déboucha une fiole de rhum. Au bout de quelques jours, nous étions les meilleurs amis du monde et nous passions notre temps à nous raconter des histoires et à jouer à l'ocarina. J'avais autrefois pratiqué cet instrument stupide et j'en jouais assez bien, mais pour Zanzibar, j'étais un artiste. Quand je voulais le charmer, je lui disais de chanter sa mélodie et je l'accompagnais à la tierce. Alors il ne se tenait plus de joie et nous recommencions 20 fois de suite le même air. Cependant, ce concert déplut au passager mystérieux dont l'appartement se trouvait situé au bout de la coursive d'entrepont. Ils se plaignirent au capitaine, et celui-ci, non content de confisquer l'ocarina, fit donner 25 coups de corde à Zanzibar. Oh, je revois encore le malheureux garçon quand il revint à la cuisine après avoir subi ce châtiment barbare. Il avait les épaules et le dos zébrés de grandes raies bleuâtres et souffrait atrocement. Alors je le pensais du mieux que je pus et m'efforçais de le consoler. Pauvre Zanzibar! Ce qu'il affectait surtout, c'était d'être privé de son ocarina. Je promis de lui confectionner un instrument plus harmonieux et il fallut qu'immédiatement je me mis au travail. Avec une boîte à cigares sur laquelle je tendis des fils de fer de diverses grosseurs, je fabriquai une sorte de sitar d'une sonorité parfaite. J'en fis aussi un pour moi, et nous reprîmes enfin nos duos que personne cette fois ne vint interrompre, car le bruit ne parvenait point jusqu'aux oreilles des passagers. À quelques jours de là, le matelot qui remplissait les fonctions de steward, s'étant cassé le bras en tombant dans la cale, c'est moi qui fus désigné par le capitaine pour le remplacer. Mon service consista donc à servir à table les deux mystérieux personnages qui étaient, on le sait, les vrais maîtres du navire. La première fois que je parus devant eux, mes plats à la main, ils me regardèrent avec méfiance. À la longue, ils s'habituèrent à moi et devinrent même très familiers, ce qui dénotait chez eux un manque complet d'éducation. Sûrement, ce gentleman n'était pas un lord comme le prétendait l'Irlandais. C'était un individu quelconque, aux gestes gauches, à la physionomie commune et totalement dépourvu d'élégance, bien qu'il soignât beaucoup sa personne et se parfumât à outrance. On voyait du premier coup d'œil que cet homme-là n'avait pas toujours eu de la fortune. Il avait dû s'enrichir tout d'un coup, soit par quelque spéculation heureuse, soit par quelque entreprise louche, ou peut-être par une colossale escroquerie. Quant à la femme, qui était assez jolie, mais maquillée comme une fille, elle était digne de son seigneur et maître. Elle fumait les coudes sur la table et bavardait à tort et à travers avec une voix cassée de noceuse. Ils m'appelèrent d'abord Monsieur Colombo, puis Colombo tout court, et enfin mon petit Colombo. Ils devinrent même avec moi d'une telle liberté que je fus une fois ou deux obligé de leur faire respectueusement observer qu'ils allaient un peu loin. Ils n'en continuèrent pas moins à plaisanter avec moi de façon stupide. Ils me posaient une foule de questions indiscrètes, me forçaient à boire avec eux et bientôt, après leur dîner, ils me retinrent à jouer aux cartes. Dès lors, ce furent d'interminables parties et je devins le commensal de ces gens louches. J'avais d'abord résisté à leurs sollicitations par crainte du capitaine. Mais quand je m'aperçus que ce dernier me traitait avec plus d'égard, depuis que j'étais l'ami de ses passagers, je profitai largement de leur hospitalité et ne vécus que très peu à la cuisine, au grand désespoir de Zanzibar, qui en était réduit à jouer seul de la cithare. Nous étions maintenant en vue des côtes de Portugal, mais contrairement à ce que je croyais, le Sigoul ne s'arrêterait pas à Lisbonne. Ainsi en avait décidé M. et Mme Pickman. C'était le nom que se donnaient les deux étranges passagers dont j'étais devenu le familier. Ils ne semblaient pas tenir à descendre à terre, du moins pour le moment. Chapitre 14. Où je manœuvre avec assez d'habileté. Un jour, M. Pickman, qui maintenant me consultait sur tout, me posa quelques questions qui me parurent bizarres. Il me demanda, entre autres, quelles étaient les formalités de débarquement dans les ports, et quand je lui eus dit que tout navire était soumis à la visite, il parut singulièrement troublé et regarda sa femme d'un air inquiet. Je ne tardai pas à acquérir la preuve que mes deux amis n'avaient pas la conscience bien nette, et je me mis à les surveiller de près. L'homme, depuis quelque temps, était plus réservé, mais la femme, très loquace, surtout après les repas, laissait parfois échapper des paroles imprudentes. C'est ainsi qu'un soir, tandis que nous émettions quelques idées sur la vie et ses surprises, elle murmura tristement « Ah, mon petit Colombo, la fortune fait pas le bonheur, allez. Et une bonne petite existence, bien tranquille, exempte de soucis, est 100 fois préférable à une existence de luxe et de plaisir comme celle que nous pouvons mener maintenant, M. Pickman et moi. » « Certes, répondis-je, oh, vous avez bien raison. Ce que nous devons rechercher avant tout, c'est la tranquillité d'esprit. » M. Pickman lança à sa femme un regard furieux, mais il était trop tard, le coup était porté. Je commençais à comprendre pourquoi, à certains moments, les deux passagers du Sigoul étaient si tristes et si préoccupés. Évidemment, le remords, ou plutôt la crainte de l'avenir, commençait à les torturer. Je résolus d'user de diplomatie et de provoquer des confidences. Pendant quelques jours, M. et Mme Pickman se tinrent sur leur garde et affectèrent une réserve qui ne pouvait durer. Ces gens étaient trop exubérants, trop bavards pour cesser brusquement de raconter des histoires. Peu à peu, ils redevinrent aussi loquaces, la femme surtout, et nous reprîmes en jouant aux cartes nos petites conversations. Madame Pickman adorait le poker et tous les soirs, après dîner, me provoquait à ce jeu au grand mécontentement de son mari qui aurait préféré faire une partie d'échecs. Tout en taquinant les cartes, nous buvions, bien entendu, et vers minuit, Madame Pickman, ma petite Dolly, comme l'appelait son époux, était généralement grise. Alors elle bavardait comme une piborgne et me documentait peu à peu sur son existence passée. J'appris ainsi que son mari, ou du moins l'homme à qui elle donnait ce nom, avait occupé une situation dans une grande banque de Londres. À cette époque, le couple ne devait pas rouler sur l'or, puisqu'il habitait dans les environs de Soho Square, quartier qui n'a rien d'aristocratique. Il n'avait même pas de bonne, et c'était Dolly qui faisait la cuisine et lavait la vaisselle. Cette dernière confidence, qui était au moins imprudente, valut à Madame Pickman, de la part de son mari, un coup d'œil irrité, mais la bavarde, très allumée par le whisky, n'en continua pas moins à étaler devant moi les petites misères de sa vie d'antan. « Mais à quoi bon se gêner devant Colombo, dit-elle, n'est-il pas notre ami ? D'ailleurs, nous n'avons pas à nous en cacher, nous n'avons pas toujours été riches. Avant de devenir millionnaires, nous avons joliment tiré le diable par la queue. Ah oui, vous avez probablement fait un héritage, interrogeai-je, tout en battant les cartes. Oui, répondit M. Pickman, oui, nous avons eu la chance de faire un héritage. Une vieille tante que nous voyons rarement nous a laissé sa fortune. Eh, une jolie fortune, allez, s'écria Madame Pickman, c'est à n'y pas croire. Tous mes compliments, dis-je. Il y a bien des gens qui voudraient être à votre place, mais comment se fait-il qu'au lieu de manger cette belle fortune à Londres, vous alliez vous fixer à l'étranger ? Cette question parut embarrasser beaucoup Madame Pickman. Aussi laissa-t-elle son mari répondre. Oh, vous comprenez, dit Pickman, qui manquait pas d'esprit d'à propos. À Londres, beaucoup de gens nous ont connus pauvres. Il nous serait bien difficile du jour au lendemain de faire figure dans la haute société, tandis qu'à l'étranger. Mais oui, vous avez raison. Mais cela ne vous ennuie pas un peu de quitter l'Angleterre? Certes, oui, mais nous y reviendrons dans quelques années. Ah, pour l'instant, vous allez aux Indes. Non, à Madagascar. Tiens, quelle idée. Ah, tu vois, dit Madame Pickman en regardant son mari, Colombo est de mon avis. Il trouve étonnant que nous allions à Madagascar dans un pays de sauvages. « J'ai mes raisons pour aller à Madagascar, » répliqua sèchement Pickman. « C'est une île ravissante, le climat y est très sain. »« dit Fige. « Vous connaissez Madagascar ?»« Oh oui, très bien, » mentis-je avec aplomb. « Ah, vraiment ?» s'écria Madame Pickman, vivement intéressée. « Oh, donnez-nous donc quelques détails, alors, mon petit Colombo. » Volontiers, mais je crains de vous désillusionner un peu. Mais ça fait rien, dites toujours. Eh bien, Madagascar n'est point, à mon avis, le pays rêvé pour des gens riches comme vous et qui désirent profiter de la vie. Le climat y est très rude. C'est plein de moustiques dont la piqûre donne des fièvres, et les habitants sont loin d'être hospitaliers. Ils sont méfiants, ils détestent l'étranger. Ils ne savent quelle vexation lui faire subir. Tenez un exemple. Il y a 5 ans, j'étais à Mayunga. Tiens, glapit Madame Pickman, c'est justement à Mayunga que nous allons. Je secouai tristement la tête et continuai. Oui, j'étais à Mayunga. Le bateau sur lequel je me trouvais avait fait escale dans ce port à la suite d'une avarie de machine. Et comme la réparation devait prendre au moins 15 jours, j'avais obtenu, ainsi qu'une partie de l'équipage, l'autorisation de descendre à terre et de vivre à l'hôtel. Oh, les hôtels de Majunga, mais cela n'est rien encore. Figurez-vous qu'à peine débarqué, je me vois suivi par deux grands escogriffes qui finalement m'arrêtent et me demandent mes papiers. Je les leur montre et je croyais en avoir fini avec les formalités. Ah ben oui, ça ne faisait que commencer. On m'emmène au bureau de police et l'on me fouille. J'avais beau protester, affirmer que je faisais partie de l'équipage du Quickly, les policiers ne voulaient rien entendre. Ils prétendaient que j'étais un individu de sac et de corde venu à Majunga pour échapper à la justice de mon pays. Bref, mon incarcération dura 2 jours. Et sans l'intervention du consul britannique, je crois que je moisirai encore dans les prisons de Madagascar. Oh, je ne suis pas le seul, d'ailleurs, à qui pareilles mes aventures soient arrivées. Le second de notre bâtiment, un Anglais comme moi, fut aussi arrêté et maintenu au secret pendant 8 jours. Oh, ne me parlez pas de Madagascar, mes amis. C'est le pays de la méfiance et du soupçon. Il suffit qu'on soit anglais pour qu'immédiatement on devienne suspect. Cela tient à ce que l'île est en butte aux querelles religieuses. Les catholiques et les protestants qui sont à couteau tiré ne savent quelle niche se faire. Si l'on est sujet du Royaume-Uni, immédiatement on a contre soi tous les prêtres de l'île qui sont heureux d'embêter les pasteurs. Et pendant que je débitais cette histoire complètement imaginée de toutes pièces, j'observais attentivement M. et Mme Pickman et je voyais leur figure changer à vue d'œil. J'avais touché juste. Mes deux nouveaux riches ne tenaient pas à faire connaissance avec la justice. C'étaient deux escrocs, deux voleurs plutôt, et ils étaient loin de se douter que leur ami Colombo, qui les renseignait si complaisamment sur Madagascar où il n'avait jamais mis les pieds, était un confrère. « Alors, demanda Pickman, quelle région me conseilleriez-vous ? » « Ma foi, je le sais, répondis-je. Cela dépend de vous. Puisque vous avez loué un yacht, c'est que vous désirez voyager, voir du pays. » « Ah oui, dit Madame Pickman d'un ton grincheux, parlons-en du yacht. C'est qu'on s'y ennuie, grand Dieu. Mais pourquoi avoir loué ce bateau ? Vous êtes plutôt à l'étroit, au lieu de prendre quelque bon paquebot sur lequel vous auriez eu de belles cabines et une nourriture de choix. » Cette question parut gêner Monsieur et Madame Pickman. Nous voulions être seuls, déclara enfin le mari. Nous désirions aussi éviter un tas de formalités. En ce cas, vous avez fait un mauvais calcul, car un yacht est soumis à plus de formalités qu'un paquebot. Vous allez voir ça quand vous débarquerez. Pour le coup, Pickman se troubla et je vis sa femme pâlir. Mes soupçons se précisaient de plus en plus. J'avais bien affaire à deux filous cherchant, assez maladroitement d'ailleurs, à dépister la police. Vraiment, s'écria Madame Pickman, qui ne pouvait tenir sa langue, c'était pas la peine de payer si cher la location de ce maudit yacht. Serait-il indiscret, dis-je, de vous demander combien vous avez loué ce bateau ? Un prix fou, monsieur, un prix fou. Tenez, vous ne devineriez jamais. 5 000 livres ? Oh, vous n'y êtes pas. 15 000, monsieur, oui, 15 000, pour 2 mois.
Ouais, c'est un peu cher, en effet. Parbleu, mon mari s'est fait rouler. Si encore pour ce prix nous étions dispensés de toutes les formalités de douane et de police, ah non, n'y comptez pas.
Mais cependant, si nous nous faisions débarquer dans quelque petit port,
oh, vous auriez encore plus d'ennuis. Il y eut un silence. Ce fut M. Pickman qui reprit. « Écoutez, Colombo, vous m'avez l'air d'un brave garçon. Vous avez pu constater que nous sommes pour vous des amis, que nous vous traitons en camarades. »«
Et je vous en sais gré, » répondis-je.
« Eh bien, donnez-nous un conseil. » Vous êtes très au courant, en votre qualité de marin, des différents usages de la navigation. Comment pourrions-nous débarquer sans être importunés par les douaniers, les officiers de port et les inspecteurs de police? Cela va vous paraître bizarre, mais je suis d'une nervosité telle que je ne puis me soumettre sans devenir fou furieux à toutes les chinoiseries administratives auxquelles sont astreints les voyageurs ordinaires. C'est stupide, direz-vous, mais on ne se refait pas. Je pris un air grave et parus réfléchir longuement. Monsieur et Madame Pickman ne me quittaient pas des yeux, attendant avec une visible inquiétude les paroles que j'allais prononcer. « Ma foi, dis-je enfin, la question est très embarrassante et j'avoue. »« Voyons, voyons, cherchez bien, supplia Madame Pickman. Vous êtes un homme de ressources et je suis sûr que vous allez trouver quelque chose. » Je demeurai silencieux pendant quelques secondes, puis laissai tomber ces mots. « Ah, oui, il y aurait peut-être un moyen de tout arranger, mais il faut que je m'informe. Patientez un jour ou deux, surtout ne consultez pas le capitaine. »« Bon, nous ne lui dirons rien, » répondit Madame Pickman. « D'ailleurs, il me déplaît souverainement ce bonhomme-là. »« Bien, alors, fiez-vous à moi. » Pickman me prit les mains et me dit d'une voix qui tremblait un peu. « Écoutez, Colombo, il y a 1000 livres pour vous si vous arrivez à nous éviter les formalités du débarquement. » Je pris un air indigné. « Ah, mais je ne fais jamais payer mes services quand il s'agit d'obliger des amis. Vous êtes de braves gens, vous avez eu pour moi trop de bonté pour que j'accepte quoi que ce soit. Je ne suis qu'un simple marin, mais j'ai du cœur, et quand je me dévoue, c'est sans arrière-pensée. » Monsieur et Madame Pickman étaient ébahis. Jamais ils ne se seraient attendus, c'est certain, à rencontrer dans deux intéressements chez un vulgaire matelot. Ils me serrèrent les mains avec effusion, les larmes aux yeux, en me comblant de bénédictions. Les deux nigauds étaient pris au piège et j'étais maintenant le maître de la situation. À quelques jours de là, au moment où nous approchions des Canaries, je simulai tout à coup une vive inquiétude, et Madame Pickman, remarquant mon air soucieux, me demanda avec intérêt « Qu'avez-vous donc, mon bon Colombo? Vous serait-il arrivé quelque chose ?»« Non, non, répondis-je, non, rien du tout. Mais vous paraissez préoccupé. » « En effet, il y a en ce moment de vilains nuages à l'horizon. » « Oh, grand Dieu, allons-nous avoir une tempête ?»« Non, non, il ne s'agit pas de cela. Demeurez dans votre cabine. N'en bougez pas, surtout, avant que je revienne. » Et je sortis, laissant mes deux oiseaux dans les transes. Suivant ma tactique habituelle, je graduais savamment mes effets, sachant par expérience que c'est le meilleur moyen d'affoler ce que l'on veut perdre. Au bout d'une heure, je reparus complètement rasséréné. « Tout va bien maintenant, » dis-je d'un ton joyeux. « Mais que s'est-il donc passé, mon beau Colombo ?» demanda Madame Pickman. « Oh, rien, » répondis-je, « mais j'ai craint un moment que nous n'ayons une visite. Une chaloupe à vapeur venait droit sur nous. Il paraît que ceux qui la montaient se sont contentés des signaux que leur a fait le capitaine, car ils ont immédiatement viré de bord. Puissions-nous être aussi heureux une autre fois ? » Monsieur et Madame Pickman étaient maintenant tranquillisés. Ils se mirent à table et firent honneur au repas que je leur servis. Certes, ces repas étaient loin d'être succulents. Ils étaient, comme on sait, préparés par Zanzibar, et le brave nègre nous confectionnait des plats qui eussent sans doute flatté le palais des Kanaks, mais qui n'avait rien pour flatter celui des Européens. C'était toujours des salmis épicés, pimentés, où dominait un affreux goût de cannelle et de clous de girofle. Heureusement, monsieur et madame Pickman, comme tous les gens habitués aux tristes nourritures de Soho Square, n'étaient pas difficiles. Ils mangeaient comme 4, buvaient comme 6, et se déclaraient satisfaits du régime de bord. Moi, qui étais plus délicat, je préparais mes plats moi-même au grand désespoir de ce pauvre Zanzibar qui multipliait ses mélanges, persuadé qu'un jour ou l'autre je finirais bien par le féliciter sur sa cuisine. Brave Zanzibar! C'était un bon, celui-là, et il s'était sincèrement attaché à moi. Il n'y a que dans ces cœurs simples que l'on trouve une réelle affection. Il était aux petits soins pour moi et s'ingéniait à m'être agréable. C'était le seul être que je fréquentasse à bord, hormis M. et Mme Pickman, bien entendu. D'ailleurs, je ne me trouvais point en contact avec des hommes de l'équipage, car je ne couchais même plus dans mon hamac. J'occupais avec Zanzibar une cabine d'entrepont où il y avait deux lits, deux cadres plutôt. Le capitaine avait bien fait quelques difficultés avant de m'autoriser à prendre un de ces lits qui était celui du steward, mais enfin il y avait consenti en maugréant. Master Ross n'ignorait point que j'étais au mieux avec ces deux passagers, et bien que cela lui déplût souverainement, il avait assez d'esprit pour ne rien laisser paraître de sa mauvaise humeur. Un jour, cependant, il me fit appeler et me dit « J'ai remarqué que M. et Mme Pickman vous traitent non pas en domestique, mais en ami. Vous êtes un roublard, vous avez su les empaumer. Moi, je m'en fiche, du moment qu'ils sont satisfaits de vous, j'ai rien à dire. Seulement, puisqu'ils vous ont pris tout à fait à leur service, il est assez naturel qu'ils vous paient. Arrangez-vous avec eux comme vous l'entendrez, mais moi, je vous supprime votre solde. » C'est bien, dis-je, je m'entendrai avec eux. Je me gardais, bien entendu, de rapporter cette conversation à mes amis. D'ailleurs, je m'en moquais de ma solde. N'était-ce pas moi le plus riche du bateau? Il est vrai que ma fortune reposait uniquement sur un diamant dont je ne pouvais me débarrasser, mais j'espérais bien qu'avant peu ma situation se modifierait sérieusement et que je jouirais enfin d'une tranquillité bien gagnée. Oh, ce diamant, quelle torture! Il m'avait fait endurer. Ce n'est qu'à force d'émétique que j'étais parvenu à le désingurgiter, mais il avait dû sérieusement me détériorer l'estomac, car j'étais parfois pris d'atroces douleurs qui me faisaient pousser des hurlements. Chapitre 15. La mallette en peau de porc. Le Sigoul filait toujours et se comportait à la lame de façon merveilleuse. Il est juste de dire aussi qu'il était supérieurement gouverné, car le capitaine Ross était un maître ex-navigation. Quant à Cardiff, malgré son apparence de brute, il possédait aussi de réelles qualités de marin. Certes, tous deux ne valaient pas cher et je les soupçonnais d'avoir quelques pavés sur la conscience, mais qui n'en a pas? L'équipage, lui, était un ramassis de vagabonds, de coureurs de quai, de forbans, et je crois bien que le seul honnête homme du bord, c'était Zanzibar. Oui, parmi tous ces blancs, ces jaunes et ces peaux cuivrées, c'était sûrement mon ami Zanzibar qui détenait le record de l'honnêteté. Il m'avait un jour raconté sa vie, ou une vie simple, exempte de complications, une vraie vie d'enfant, et j'avais été ému jusqu'aux larmes de la candeur et de l'innocence de ce colosse de 6 pieds. Il était originaire du Congo et n'avait qu'une ambition, amasser quelques milliers de francs et retourner en Afrique auprès de sa vieille mère Maouda, dont il ne parlait sans cesse. J'avais décidé, monsieur et madame Pickman, à monter de temps à autre sur le pont quand la mer était belle et le vent presque nul. Je ne les accompagnais point, car on eût pu s'étonner de l'intimité qui existait entre deux richards et un simple matelot. Bientôt, ils prirent goût à ces cures d'air, et il arrivait souvent qu'ils demeurassent sur le pont du Sigoul des journées entières enfouis dans le rocking chair. Nous ne nous retrouvions que le soir, et c'était alors d'interminables parties de poker, coupées de confidences et d'interrogations. Jusqu'alors, ils ne m'avaient dit de leur vie que ce qu'ils en pouvaient livrer sans se compromettre, et c'était vraiment trop peu pour moi, qui suis curieux de nature, et avait en outre de sérieuses raisons pour me documenter complètement sur ces deux mystérieux personnages. Un jour, profitant de ce qu'ils étaient mollement étendus dans leur confortable fauteuil le long du roof arrière, je résolus d'opérer dans leur appartement une petite perquisition. J'aime à savoir à qui j'ai affaire, à être renseigné sur ceux que je fréquente. Je pénétrai donc dans chez eux après avoir eu soin de semer de coquilles et de noix dans la coursive de l'escalier d'entrepont, de façon à être prévenu de leur arrivée dans le cas où ils abrégeraient leur sieste en plein air. L'appartement qu'ils occupaient à bord du Seagull se composait de 4 pièces, salle à manger, drawing room, chambre à 2 lits et cabinet de toilette. La porte de la salle à manger était grande ouverte, celle du drawing room aussi, mais la chambre, où je m'en doutais un peu, était fermée à clé. Je me glissai alors jusqu'à la lampisterie où j'avais remarqué, au cours d'une brève visite, des trousseaux de clés accrochés à la cloison. Je fis mon choix parmi ces trousseaux et revins à l'appartement de mes amis, en ayant bien soin de ne pas écraser les coquilles de noix de la coursive. D'abord des yachts, les clés ouvrent généralement toutes les portes. J'ai souvent fait cette remarque, et cela tient à ce que les propriétaires n'emportent jamais en croisière d'objets de valeur, n'ont point besoin de fermer leur rooms si ce n'est pendant la nuit, et encore se servent-ils plutôt de verrous intérieurs appelés « safety locks ». Après 2 ou 3 essais infructueux, j'ouvris enfin la porte de la chambre. Celle-ci ne contenait en fait de bagages qu'une valise bon marché, une serviette de maroquin munie d'une serrure et une petite mallette rigide en peau de porc. Seule la serviette et la mallette m'intéressaient, mais il eût été de la dernière imprudence de les forcer. Je les secouai et constatai qu'elles contenaient des papiers. Je songeai bien un moment à dévisser les serrures, mais je reconnus que cela m'était impossible. Alors l'idée me vint de fouiller dans le tiroir d'une table fixée à la cloison, et je fus bien inspiré car, sous un amas de chiffons, je sentis 2 petites clés réunies entre elles par un anneau brisé. C'étaient les clés de la serviette et de la mallette. J'ouvris d'abord la serviette. Elle contenait divers papiers et des coupures de journaux. Je pris au hasard 2 ou 3 de ces coupures et les mis dans ma poche. Cela fait, j'ouvris la mallette. Oh, stupéfaction! Elle était remplie de banknotes. J'en fis à la hâte le dénombrement et en comptai 10 liesses de chacune 20 000 livres. Soit environ 200 000 livres. Une fortune colossale. De quoi mener jusqu'à la fin de ses jours une existence de nabab. Je fus sur le point d'enfouir ces billets dans ma poche, mais je me ravisais. Agir de la sorte eût été stupide. Il y avait mieux à faire. Je refermai serviette et mallette, remis les clés où je les avais prises, et sortis de la chambre après avoir donné un tour de clé. J'avoue que j'étais un peu troublé. La vue de ces banknotes m'avait ébloui, et 1000 pensées confuses se heurtaient dans mon esprit. Comme mon diamant que je sentais là, dans ma pochette de ma chemise, me semblait maintenant misérable et mesquin, à côté de ces jolis billets que je venais de voir et dont je croyais encore sentir sous mes doigts le papier doux et satiné. Je me ressaisis enfin et, m'approchant d'un hublot, me mis à lire les coupures de journaux que j'avais dérobées. La première contenait ces 2 lignes. Le vol de la Banque d'Angleterre. Un vol considérable a été commis samedi dernier au préjudice de la Banque d'Angleterre. Une masse de billets représentant environ 200 000 livres a disparu du coffre où l'avait serré le caissier principal. À la dernière heure, on affirme que l'auteur de ce vol serait un nommé Richard Stone, sous-caissier adjoint, jusqu'alors très bien noté par ses chefs. L'autre coupure annonçait que les soupçons qui pesaient sur Richard Stone venaient de se préciser et que la police était sur les traces du voleur qui, en compagnie de sa maîtresse, avait précipitamment quitté son domicile de Russell Street. J'étais maintenant fixé sur l'identité du ménage Pickman. Ainsi, comme je m'en étais douté du premier coup, Pickman était un voleur, mais j'avoue que depuis que j'avais vu la mallette aux banquenotes, j'éprouvais pour lui une réelle admiration. 200 000 livres! En voilà un, ma foi, qui n'y allait pas avec le dos de la cuillère. Quand il s'y mettait, c'était sérieux. Pour son coup d'essai, il avait eu la main heureuse. Au moins, lui avait eu l'esprit de faire main basse sur des valeurs solides, facilement négociables, et cela lui avait coûté moins de peine que de subtiliser un diamant au musée du Louvre. Il n'avait eu qu'à allonger le bras, enfouir les liasses dans ses poches, prendre son chapeau et quitter la banque. Maintenant, fier comme un lord, il voguait sur mer dans un yacht frété pour la circonstance, vers les régions lointaines, et s'il n'avait pas eu le malheur de rencontrer Edgar Pipe sur sa route, son bonheur était assuré. Malheureusement, il avait rencontré Edgar Pipe, comme Edgar Pipe lui-même avait rencontré Manzana. Ce qui prouve que l'on n'est jamais complètement heureux, et qu'il faut toujours que, dans la vie, on trouve un caillou sur son chemin. Oh, je me sentais tout joyeux et me mis à chanter. Zanzibar, qui m'entendit, sortit aussitôt de sa cuisine et me dit avec un large sourire qui découvrait ses dents blanches, « T'y content, monsieur Colombo? T'y chanti, je crois. Fais-tu faire musique? Si je le veux, mais certainement, mon bon Zanzibar. Tu es un ami, toi. Oh, je ne puis rien te refuser. Oh, t'es bien gentil, Colombo. T'es bien beau pour pauvre nègre. Et je serai meilleur encore, mon ami, sois-en persuadé. Oh, s'écria le noir enthousiasmé, t'es pas un homme, Colombo. T'es le bon Dieu, pour sûr. Zanzibar prit sur une étagère les deux boîtes à cigares, me tendit la mienne et nous commençâmes à jouer sur ces sitars improvisés qui rendaient un petit son aigre d'épinette. Nous jouâmes 1 heure, nous jouâmes 2 heures, et je crois bien que nous ne nous serions pas arrêtés si je ne m'étais aperçu que c'était l'heure du dîner et que monsieur et madame Pickman devaient attendre leur repas. Zanzibar remisa bien à regret les deux boîtes à cigares et s'occupa de sa cuisine. Ce jour-là, les plats que je servis à mes amis étaient plutôt étranges, mais le grand air leur avait donné de l'appétit et ils ingurgitèrent sans broncher les ragoûts innommables de Zanzibar. Après le dîner, ils me retinrent comme d'habitude pour faire la partie et nous parlâmes surtout de ports où les fameuses formalités de débarquement seraient le moins compliquées. « Je crois, leur dis-je, que le Congo français serait assez sûr. »« Oh !» déclara Pickman, « pour rien au monde, je ne débarquerai au Congo. Je veux un pays civilisé où il y a des distractions. Vous comprenez que si je me paye un voyage, c'est pas pour aller m'enterrer dans une région peuplée de nègres. » « Et le Cap, que diriez-vous du Cap ?»« Le Cap est une ville anglaise, et vous savez comme... les Anglais sont formalistes. Alors le Japon? Oh non, pas le Japon! S'écria madame Pickman. Ma foi, dis-je, je ne vois pas, alors. Où sommes-nous maintenant? Le capitaine disait tantôt que nous étions à proximité du golfe des Canaries. Eh bien, il n'y a qu'à dire au capitaine que vous avez changé d'avis, et qu'au lieu d'aller à Madagascar, vous préférez vous diriger sur le Brésil. Cela simplifiera même votre voyage. Oui, en effet, vous avez raison. C'est curieux que je n'aie pas songé plutôt au Brésil. Hein, qu'en dis-tu, Dolly? Madame Pickman approuva mon idée. D'autant plus, reprit Pickman, que du Brésil, on peut se rendre facilement dans la République argentine. Il faudrait tout de suite prévenir le capitaine. Si vous voulez, proposai-je, je vais aller le chercher. Oui, c'est cela, Colombo, allez le chercher. Quelques minutes après, j'étais devant Master Ross. Eh bien, qu'y a-t-il? Capitaine, les passagers veulent vous parler. La figure du gros homme se rembrunit. Me parler, fit-il, et pourquoi? Ils ont à se plaindre de quelque chose à bord? Oh non, capitaine, je crois pas. Alors, je crois qu'ils veulent vous demander un conseil. Bien, bon, dites-leur que je descends. J'allais retrouver monsieur et madame Pickman. Le capitaine vient tout de suite, leur dis-je. Je vous laisse. Et pourquoi cela? Protesta Pickman. Mais non, pas du tout, vous allez rester. Est-ce que nous ne sommes pas libres d'avoir qui nous voulons avec nous? Il manquerait plus que le capitaine nous adressât une observation à ce sujet. Nous payons assez cher pour avoir le droit de faire ce qu'il nous plaît. Restez, Colombo, restez. Il eut bientôt à la porte un petit coup discret. Entrez, dit Pickman d'un ton bref. Master Ross entra. Pour se présenter devant ses passagers, il avait revêtu sa tenue numéro 1. Il se balançait gauchement, roulant sa casquette entre ses gros doigts noueux, déformés par les rhumatismes. Monsieur et Madame Pickman avaient pris un air digne. Ces parvenus apparaissaient maintenant dans toute leur goujaterie et tenaient à faire sentir à cet homme qu'il était à leurs ordres. Habitué depuis son enfance à respecter ceux qui payent, Master Ross conservait la position militaire. Capitaine, dit enfin Pickman après avoir allumé un cigare, je vous ai fait demander pour vous ordonner de modifier votre itinéraire. À votre gré, monsieur, répondit le capitaine avec une légère inclination de tête. Oui, décidément, Madagascar est trop loin, et puis c'est un pays malsain. Maintenant, nous allons au Brésil. À votre gré, monsieur. Et nous voulons y arriver vite, vous entendez? Ça dépendra du vent, monsieur. C'est lui notre maître. Oui, je sais, mais en admettant qu'il vous soit favorable, combien mettrons-nous de temps pour atteindre Rio de Janeiro? Environ 20 jours, peut-être moins, peut-être plus. Mais si nous avons le vent contre nous, oh, nous mettrons 30 jours au moins. Mais c'est une vraie maringotte, votre bateau. Il est bon marcheur, monsieur, mais comme tous les navires à voile, il est soumis aux caprices du vent. Enfin, bon, il faut en prendre son parti. Eh bien, changez votre route dès maintenant. Cela n'est pas possible, monsieur. Pas possible, et pourquoi cela? Parce que j'ai plus d'eau douce à bord et que je dois aussi me réapprovisionner. Et où comptez-vous donc vous réapprovisionner? À Santa Cruz, c'est le point le plus proche. Et vous pensez y arriver quand? Oh, demain soir, si le vent le permet. Le diable soit du vent. Ah, on ne m'y reprendra plus, je vous assure, à prendre passage sur des navires à voile. En ce cas, répondit humblement Master Ross, j'aurais pu l'honneur de vous transporter, je regrette. Bah, avec l'argent que je vous ai donné, vous aurez presque de quoi vivre de vos rentes. Monsieur oublie sans doute que mon équipage ne travaille pas pour rien. J'aurais pu donner un cinglant démenti au capitaine Ross, mais je me gardais bien de le faire. Lui, de son côté, craignait sans doute que je ne protestasse, car, pour m'amadouer, il daigna sourire. C'est bien, trancha Pickman, faites pour le mieux. Monsieur peut compter sur moi. C'est moi-même qui tiendrai la barre afin de tracer la route au plus juste. C'est tout ce que monsieur avait à me dire? Oui. Le capitaine Ross salua, il alla se retirer, et Pickman le retint. « Oh, à propos, dit-il, vous savez, je n'aime pas être dérangé. J'espère qu'à notre arrivée à Santa Cruz, vous m'éviterez les désagréments d'une visite à bord. Oh, je ne puis pas vous le promettre, monsieur. Tout dépendra des autorités maritimes. Si elles jugent à propos de venir à bord, je ne pourrais pas les en empêcher. Mais je suis chez moi, ici. Personne n'a le droit de venir voir ce qui se passe sur mon bateau. Les autorités maritimes ont toujours le droit de visiter un navire. Même un yacht? Ah oui, monsieur. Et si vous refusiez? Oh ben, on nous enverrait d'abord un coup de canon à blanc. Puis si nous n'obtenions pas aux ordres de ces messieurs, on nous canonnerait pour de bon et on nous coulerait. Mais ce sont là des mœurs de sauvages. Ce sont les lois d'usage sur mer. Et quelle est donc la brute qui les a faites, cette loi? Bon, je l'ignore, monsieur. Bon, c'est bien, allez. 100 livres pour vous si vous parvenez à évincer les gêneurs. J'essaierai, monsieur. Quand le capitaine fut sorti, Pickman me regarda en souriant. Ah, dit-il, vous avez vu comme je lui ai parlé à votre capitaine? Oui, vous l'avez un peu secoué. Il faut les mener comme ça, ces gaillards-là, sans quoi il n'aurait aucun respect pour vous. Pickman et sa femme, j'en avais la certitude, étaient des mal appris. Vraiment, de tels gens ne sont pas dignes d'être riches.